Marie Darieusec.
Ovide, il a ce génie de condenser, de redire, de réécrire quelque chose dont il hérite, un énorme patrimoine. De toute façon, la littérature, c'est la métamorphose. Enfin, c'est, tout se transforme dans la phrase. Bon, et ça donne des arbres, des animaux, et puis des rêves aussi, enfin, des fictions, et une liberté, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux dans les métamorphoses, c'est qu'il y a toujours une échappatoire, il y a toujours une issue.
Ça peut pas faire de mal.
Même les situations les plus désespérées donnent naissance à des nouvelles créatures. Alors on n'a pas toujours envie d'être transformé en araignée, mais modeler de nouveaux corps, c'est prodigieux. Et faire des chimères, ça a toujours existé, ça, entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la femme aussi, enfin, des passerelles comme ça. C'est très décevant d'avoir un seul corps.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Bien des jeunes hommes, bien des jeunes filles le désirent. Mais il y a dans sa douce beauté un si dur orgueil qu'aucun jeune homme, aucune jeune fille ne l'émeut. Elle l'aperçoit qui presse les serres frissonnant dans ses filets, la nymphe de la voix, celle qui ne sait se taire quand on parle, ni parler la première, celle qui répète les sons, écho. Narcisse erre par les campagnes isolées. Écho le voit, s'échauffe, suit ses traces en cachette. Plus elle le suit, plus elle chauffe d'un feu plus proche, comme quand le bout de la torche enduit de soufre vivace attire les flammes qu'on y porte. Combien de fois elle veut venir à lui avec des paroles tendres et lui faire de douces prières. Sa nature refuse. Elle ne peut pas commencer. Ce qu'elle peut faire, elle s'y prête. Guetter les sons, renvoyer les mots. L'enfant, loin de sa fidèle troupe de compagnons, dit « Qui est là ?»«
Là !»
répond Écho. Stupéfié, il regarde dans tous les coins. Il appelle « Viens !»«
Viens, viens !»
Il se retourne.
« Viens !»
Personne ne vient. Il dit « Ici réunissons-nous. » Et à rien, jamais, avec plus de plaisir, Écho n'a répondu
« Unissons-nous. »
Elle est bien d'accord. Elle sort de la forêt, va pour jeter ses bras autour du cou désiré. Il fuit et fuyant. « Sors tes mains de là, je mourrai, » dit-il, « avant d'être à toi. » Elle ne répète plus rien, sauf
« Être à toi, être à toi, être à toi, être à toi, toi, toi. »
Méprisée, elle se cache dans les forêts, couvre sous les feuilles son visage honteux, vit dans des grottes de solitude. Son amour est bien accroché, il grandit de la douleur du refus. Les soucis la tiennent éveillée, mincissent le pauvre corps. La maigreur fripe la peau et dans les airs, le suc du corps va tout entier. Juste une voix. Juste restent les os. La voix demeure. Les os, dit-on, prennent figure de roche. Depuis, elle se cache dans les forêts. On ne la voit plus sur les montagnes. Tout le monde l'entend. Elle est le son. Il vit en elle. C'est avec Écho, nymphe de la voix, et conduite par Narcisse, que nous ouvrons cette émission dédiée aux métamorphoses d'Ovide. Né à Rome, 43 ans avant notre ère, Ovide étudie le droit mais quitte bientôt la magistrature pour sa passion, la littérature. À 20 ans, il écrit son premier recueil de poésie élégiaque, Les Amours, puis signe un recueil d'initiation à la séduction devenu célèbre, L'Art d'aimer. Au tout début de notre ère, Ovide s'attelle aux métamorphoses, poème épique monumental, où l'amour et la sensualité tiennent une place essentielle. Peuplé de personnages hauts en couleur, empruntés à la mythologie grecque et aux légendes romaines, ces 12 000 vers trouvent leur unité dans la célébration de la métamorphose. Femme araignée, dieu taureau, homme loup, femme laurier ou créature hermaphrodite, les dieux ne cessent de recourir à leur pouvoir pour satisfaire leurs caprices. Leur imagination est sans bornes, comme celle de l'écrivain. Mais cette apologie de la transformation peut se lire aussi au plan philosophique. Nous sommes des êtres complexes, pluriels, conflictuels et par nature changeants, nous souffle Ovide au fil des pages. Enfin, le plaisir que nous donne la lecture de ce poème doit beaucoup à la qualité de sa langue. 20 siècles plus tard, les métamorphoses traduites ici par Marie Connet n'ont rien perdu de leur puissance. J'ai la joie d'accueillir à mes côtés pour lire ce poème une immense comédienne, amatrice de poésie aussi, Irène Jacob. Bonsoir Irène.
Bonsoir.
Ce soir, vous serez notre nymphe de la voix. Un grand merci d'être là pour nous accompagner dans cette lecture. Ouvrons ce vaste champ par le récit de la métamorphose originelle et voyons comment du chaos émerge la vie.
Avant la mer et les terres, et le ciel qui couvre tout, le visage de la nature était un sur le globe entier. On le disait chaos, matière brute et confuse, rien qu'un poids inerte, des semences amoncelées, sans lien, discordantes. Aucun titan alors n'offrait sa lumière au monde. Quand il y avait terre, il y avait mer, il y avait air, mais c'était air instable, onde innavigable, air sans lumière. Rien ne gardait sa forme. Une chose empêchait l'autre, car dans un même corps, le froid battait le chaud, l'humide, le sec, le mou, le dur, le sans-poids, le poids. Un dieu et une bonne nature ont mis fin à cette lutte. Ils ont retranché du ciel les terres, et des terres les eaux. D'un air compact, ont séparé le ciel limpide. Ils ont déroulé les choses éparses, les ont tirées du poids aveugle et les ont attachées à des lieux où elles s'accordent en paix. La force de feu, impondérable du ciel incliné, a éclaté. Elle s'est fait place au plus haut sommet. Proche du feu est l'air, en légèreté et lieu, plus lourde que la terre, traînant de grands éléments pressés sous son propre poids. L'humeur qui lui coule autour habite les dernières régions, enserre le globe solide. Un dieu, quel qu'il soit, a disposé l'amas, puis l'a coupé. Coupé, il lui a donné des membres. D'abord la terre, et pour qu'elle ne soit pas en ses parties inégales, il l'a arrondi en forme de grand globe. Après, il a versé les flots, a ordonné qu'ils gonflent sous les vents rapides, qu'ils entourent les rives d'une bande de terre. Il a ajouté des fontaines, d'immenses nappes d'eau, des étangs. Il a ceinturé de rives pentues les fleuves descendants. Il a ordonné aux plaines de s'allonger, aux vallées de s'asseoir, aux forêts de se couvrir de feuilles, aux montagnes pierreuses de surgir. À peine le dieu a-t-il tout clôturé dans de sûres limites que, cachés sous la masse qui les écrasait depuis longtemps, les étoiles ont commencé à mettre le feu au ciel. Pour qu'aucune région ne soit privée d'êtres vivants, des astres et des formes de dieux occupent le sol du ciel. Les eaux à habiter font face aux poissons brillants. La terre prend les bêtes et l'air agité, ceux qui volent. Noble, capable de hautes pensées, un animal manquait encore pour dominer les autres. L'homme est né.
Poursuivons notre lecture et découvrons le rôle joué par l'amour dans les métamorphoses. Désireux de donner une leçon à l'orgueilleux Apollon, Cupidon le condamne à aimer sans retour Daphné. Phébus, la version romaine d'Apollon, pourchasse alors la belle de ses ardeurs, mais celle-ci le fuit. Attachée à sa liberté, la jeune humaine finit par invoquer une transformation pour échapper à son courtisan. Son vœu est exaucé, mais elle s'enracine à tout jamais dans la terre. Le désir n'est jamais si ardent que lorsque son objet vous échappe, nous souffle au vide. Dans les cachettes, dans les forêts, dans les dépouilles des bêtes capturées, Daphné se plaît, égale de Phébé la non-mariée. Une bandelette serre ses cheveux en désordre. Beaucoup la désirent, elle tourne le dos au désir, ne supporte ni ne connaît les hommes, court dans les bois reculés. Qui est Hymen, amour? Qu'est-ce que le mariage? Elle ne veut pas savoir. Souvent son père dit « Enfant, tu me dois des petits-enfants ». Elle déteste comme un crime les feux des unions, baigne son beau visage d'une rougeur de honte et de ses bras blancs s'accroche au cou de son père.
« Donne-moi, mon père adoré, de jouir de la virginité éternelle. Le père de Diane autrefois le lui a donné. »
Il acquiesce. « Mais ton charme empêche qu'il en soit comme tu veux. Ta beauté s'oppose à ton vœu. » Phébus aime, il désire s'unir à Daphné. Depuis qu'il l'a vue, il espère ce qu'il désire. Ses oracles le trompent. Il brûle et nourrit avec espoir un amour impossible. Il regarde les cheveux sauvages descendre dans le cou. Et oh, s'ils étaient coiffés! Il voit, palpitant de feu comme des étoiles, les yeux. Il voit la bouche, La voir n'est pas assez. Il loue les doigts, les mains, les avant-bras, les bras nus, plus qu'à moitié. Et ce qui est caché, il le croit plus beau. Elle fuit plus vive que la brise légère. Elle ne s'arrête pas quand il l'appelle. « Nymphe, je t'en prie, arrête. Ce n'est pas un ennemi qui te suit. Nymphe, arrête. L'agnelle fuit le loup, la biche, le lion et la colombe d'une aile frissonnante, l'aigle. Chacun son ennemi. Moi, c'est par amour que je te suis. » Pauvre de moi, si tu tombais, si les ronces marquaient tes jambes indignes de blessures, si je causais de la douleur, ils sont escarpés les lieux où tu cours. Doucement, je t'en prie, retiens ta fuite, je te suivrai doucement. Apprends à qui tu plais, tu ne sais pas folle, tu ne sais pas qui tu fuis. La terre de Delphes est à moi, Jupiter est mon père, par moi les chants s'accordent à la lyre. Il va parler encore, mais la fille du peiné, à la course craintive, fuit. Le laisse là, lui et ses mots inachevés. Elle est toujours aussi belle, les vents dénudent son corps, les souffres en face font palpiter sa robe, et légère, la brise lui pousse les cheveux en arrière. La beauté grandit dans la fuite, le jeune dieu ne supporte plus de se perdre en douceur, et comme le lui conseille l'amour, d'un pas déchaîné, il la suit à la trace. La fille n'a plus de force, toute pâle et vaincue de fatigue après la fuite vive, elle regarde les eaux du peiné.
« Aide-moi, mon père, si vous les fleuves, vous avez ce pouvoir. J'ai trop plu, perds ma figure, change-la. »
La prière à peine finie, une lourde torpeur envahit les bras. Le sein doux est cerclé de fines peaux, en feuillage les cheveux, en branche les bras poussent, le pied jadis si vif colle aux racines figées, la tête est la cime, une splendeur demeure en elle. Phébus l'aime encore, et la main posée sur le tronc, il sent son cœur palpiter sous l'écorce nouvelle, et embrasse les branches comme des bras. De toute sa force, il donne ses baisers au bois, et le bois renvoie les baisers. Alors, puisque tu ne peux être ma femme, tu seras mon arbre, dit-il. Ma chevelure te portera toujours laurier, ma cithare te portera, mon carquois te portera. Comme ma tête, jamais rasée, reste jeune, toi aussi tu porteras l'honneur perpétuel de ton feuillage. Apollon a fini. Le laurier, de ses branches juste formées, s'incline. Il a semblé qu'une tête s'agitait à la cime. Sondons à présent le désir féminin, d'expression tout aussi ardente. Fils de Mercure, un adolescent de 15 ans quitte sa terre natale pour aller découvrir le monde. Parvenu près de la ville de Carie, il est attiré par la beauté d'un étang. Là vit Salmacis, une nymphe immédiatement troublée par la beauté du jeune homme. Alors qu'elle lui déclare avec fougue son désir, l'adolescent effrayé se défile. Mais les dieux prennent pitié de la nymphe et fondent les deux corps en un seul. Mais avant de découvrir cette métamorphose étonnante, écoutons la déclaration enflammée de la naïade.
Garçon, digne qu'on le croit un dieu. Si tu es un dieu, tu peux être Cupidon. Si tu es un mortel, heureux ceux qui t'ont fait naître. Et comblé ton frère, et très chanceuse, c'est sûr, si tu en as une, ta sœur, et la nourrice qui t'a donné le sein. Mais beaucoup plus heureuse que tous, elle, si tu en as une, ta fiancée, si tu acceptes de l'épouser. Si jamais tu en as une, donne-moi un plaisir furtif. Si jamais tu n'en as pas, ce sera moi, allons au lit ensemble. Après cela, la naïade se tait. La rougeur marque le visage du garçon. Il ne sait pas ce qu'est l'amour, mais cela lui va bien de rougir. Cette couleur est celle de l'arbre de plein soleil où pendent les fruits, ou de l'ivoire teint, ou de blancheur rougissante quand on frappe le bronze pour l'encourager, celle de la lune. La nymphe réclame sans fin, au moins comme une sœur, des baisers. Elle porte ses mains au cou d'ivoire et lui...
Tu arrêtes, oui, ou alors je m'en vais, je te laisse.
Salmacis s'est effrayé. Je libère les lieux,
étranger, dit-elle. Demi-tour, elle fait semblant de s'éloigner. Elle regarde en arrière, au cœur d'une forêt d'arbrisseaux se cache, fléchit le genou, se baisse. Lui, comme personne ne le voit, au milieu du désert d'herbe, il va par-ci, par-là, et dans les eaux qui jouent, plonge le bout du pied jusqu'au talon. Aussitôt, pris par la caresse des eaux, il ôte le linge doux de son corps tendre. Il plaît à Salmacis. Du désir de la forme nue, elle brûle. Les yeux de la nymphe s'enflamment comme très resplendissant pur rayon Apollon dans l'image d'un miroir en face. À peine elle peut attendre, à peine elle retarde la jouissance. Là, elle veut le prendre, là, folle, elle ne se retient pas. Lui, vif, tapote son corps du creux de ses mains, saute dans le bain, bouge un bras, puis l'autre, brille dans les eaux limpides, comme si on couvrait une statue d'ivoire ou un lys blanc d'un vert clair. « J'ai gagné, il est à moi !» s'exclame la naïade, et tout vêtement jeté loin, elle plonge au cœur des eaux. Elle le tient, il se bat, elle lui prend des baisers de force, glisse ses mains sous lui, touche sa poitrine qui refuse, par ici se colle au garçon, par là. À la fin, il a beau faire effort pour lui échapper, elle le serre comme un serpent tient l'oiseau royal et l'enlève dans l'air. Celui-là s'attache, suspendu à la tête, au cerf, enlace de sa queue les ailes déployées, comme font les lierres lacées au tronc. Comme dans les profondeurs, un rapace saisit son ennemi et le maintient le fouettant de tous côtés. Il tient bon le petit-fils d'Atlas. La jouissance espérée de la nymphe, il la refuse. Elle le presse, se joint à lui de tout son corps comme accroché. « Tu peux te débattre, salaud !» dit-elle. « Tu ne m'échapperas pas. Dieu, faites qu'il n'y ait pas un jour où tu seras loin de moi ou moi de toi. » Ses vœux touchent les dieux. Les corps mêlés des deux se joignent. Leurs visages deviennent un. Ils ne sont pas deux, mais une forme double. On ne peut dire ni fille, ni garçon. Aucun des deux. Les deux à la fois. Lui, qui dans les eaux limpides est descendu homme, quand il voit qu'il est double sexe, que dans les eaux ses membres mollissent, il tend les mains et d'une voix qui n'est plus d'un homme, il dit « Hermaphrodite ».
Faites un cadeau à votre enfant, mon père, ma mère, car je porte vos deux noms. Quiconque viendra homme dans ces fontaines, qu'il en sorte demi-homme, qu'au toucher des eaux, il mollisse d'un coup. Les parents de l'enfant double forme sont émus, exaucent sa parole et trempe la fontaine d'un poison impur.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me morde la main, ne me couronne d'épines, des ados. Adorée. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau des adorés. L'adorée. Mais à ce chagrin si haut que je porte, bout comme un drapeau, en vainqueur dont on admire le sort, courageux qui s'aimait trop fort, car comme est Dieu qu'on adore adorer. J'adorais l'adorer. J'ai été si vivant chaque minute, chaque seconde. Mais avant d'abhorrer ces humeurs vagabondes, des âmes.
Prolongeons notre exploration des passions humaines avec l'histoire d'Europe. Et voyons comment Jupiter fait de la métamorphose une ruse pour assouvir son désir. Alors qu'Europe, princesse phénicienne et fille d'Agénor, se promène sur la plage de Sidon, Jupiter succombe à ses charmes. Pour échapper à la jalousie de son épouse, Junon, et approcher la jeune fille sans la peurer, il prend l'apparence d'un magnifique taureau blanc. La ruse fonctionne. Il trompe sa confiance et il l'emmène jusqu'en Crète. Ovide interrompt son récit juste avant que l'histoire ne prenne un tour plus sombre, éludant le viol qui suit l'enlèvement d'Europe. Écoutons l'histoire qui inspira de nombreux artistes, de Véronèse au Titien, en passant par Darius Milhaud et Rimbaud, avant de devenir le symbole quelque peu déconcertant de notre continent. Nous voici dans le royaume de Tyr. Je serai la voix de Jupiter, en toute simplicité, s'adressant à son fils et vous, chère Irène, la narratrice. Fidèle serviteur de mes ordres, mon fils, sans tarder, descends à la course comme tu sais faire. Cette terre qui, à ma gauche, regarde vers ta mer, que les habitants appellent Sidon, vas-y. Tu vois paître sur le gazon de la montagne ce troupeau royal ? Fais-le venir au rivage.
Il dit, et les bêtes chassées de la montagne viennent au rivage à ses ordres, où la fille du grand roi Agénor a l'habitude de jouer avec les jeunes filles de Tyr. Ne font pas bon ménage, ne vivent pas bien ensemble, majesté et amour. Le dieu pose le poids de son sceptre. Lui, père et chef des dieux, dans sa main droite il porte les trois feux, secoue la terre d'un signe, se fait la tête d'un taureau, se mêle aux bêtes, mugit et fait le beau sur les herbes tendres. Sa couleur est de neige que les traces d'un pied dur n'ont pas foulée. Le cou montre ses muscles, le fanon descend aux épaules, les cornes sont petites, c'est vrai, mais on les jurerait faites à la main, plus pures que des gemmes diaphanes. Aucune menace sur le front, rien d'effrayant dans l'œil, une tête qui porte la paix. La fille d'Agénor s'étonne qu'il soit si beau, qu'il ne cherche pas la bagarre. Malgré sa douceur, elle a d'abord peur de le toucher. Bientôt, elle approche. Elle tend des fleurs à la bouche blanche. L'amant se réjouit. Avant le plaisir espéré, il donne aux mains des baisers. Il peine à retarder les autres. Maintenant, il s'amuse, saute dans l'herbe verte. Maintenant, il allonge son flanc de neige sur le sable roux. Peu à peu, elle n'a plus peur. Alors, il offre son flanc à la main caressante de la jeune fille.
offre alors ses cornes à entortiller de guirlandes fraîches. Elle ose, la fille du roi, elle ne sait qui elle touche, monter sur le dos du taureau. Le dieu, quittant la terre et le rivage sec, pose d'abord la trace de ses faux sabots dans les eaux, puis plus loin, en plein milieu de l'océan, emporte sa proie. Elle a peur. On l'enlève. Elle regarde le rivage qu'elle a quitté. D'une main tient la corne, l'autre est posée sur le dos. Tremblante, sa robe frissonne dans la brise.
Mais les métamorphoses sont aussi l'instrument de la vengeance divine et le moyen d'asseoir un certain ordre du monde. Lycaon, monarque barbare, voulut tester l'immortalité de Jupiter en lui donnant à manger de la chair humaine. Furieux, le maître des cieux le condamne à vivre sous l'apparence d'un homme loup, et le corps du perfide devient la métaphore de son âme. Écoutons le récit haineux de Jupiter qui s'adresse aux puissants habitants du ciel. Jupiter, appuyé sur son sceptre d'ivoire, secoue trois fois, quatre fois, sa terrifiante chevelure avec laquelle il bouge la terre, la mer et les étoiles. Il ouvre ainsi sa bouche de révolte. « Il faut perdre le genre humain, je le jure, par les fleuves d'en bas qui glissent sous les terres, jusqu'au bois du Styx. J'ai tout essayé. La blessure est sans remède. Il faut trancher au fer pour épargner la part intacte. J'ai des demi-dieux, j'ai des démons de campagne, des nymphes, des faunes, des satyres. Puisqu'on ne les honore pas encore au ciel, ils doivent habiter en paix les terres données. Dieu d'en haut, est-ce que vous vous croyez en sécurité quand moi, qui vous possède et dirige avec la foudre, j'ai été piégé par Lycaon, connu pour sa sauvagerie ? Tous frémissent et avec une énergie brûlante l'encouragent à oser. De la voix, de la main, Jupiter calme les murmures. Tous font silence. Dès que les cris sont calmés par la majesté du souverain, Jupiter brise le silence pour la deuxième fois. L'homme a payé sa peine, n'ayez crainte. Voici son délit et ma vengeance. À peine Lycaon a-t-il posé le repas sur la table que de ma foudre, je fais tomber le toit sur un foyer bien digne de son maître. Effrayé, celui-ci s'enfuit. Il tombe dans le silence des bois et hurle en vain. Essaie de parler. La bouche en elle concentre toute la fureur rentrée, son désir de meurtre. Il l'exerce sur les troupeaux. Maintenant encore, il jouit du sang. Ses habits s'effacent en poils, ses bras en jambes. Il devient loup et garde des traces de son ancienne forme. Même blancheur, visage de même violence. Même brillance dans les yeux, même image de cruauté. Une seule maison est tombée. Elle n'était pas la seule à devoir périr. Là où s'étend la terre, là règnent les déesses infernales de la vengeance. Il ne fait pas bon défier l'autorité divine. Voyons quel sort la déesse de la guerre réserve à l'orgueilleuse Arachné. Parmi les multiples facettes de la déesse Minerve, Athéna chez les Grecs, il y a Pallas, protectrice des tisseuses, brodeuses et fileuses. Pallas donc entend parler d'Arachné, tisseuse de renom qui clame partout ne devoir son talent qu'à elle-même. Prenant l'apparence d'une vieille femme, elle rend visite à la mortelle et l'invite en vain à reconnaître l'autorité de la déesse. Bientôt, un concours est lancé pour départager les rivales, mais le combat n'est pas tout à fait à armes égales. Vous serez chère Irène la narratrice, mais aussi Arachné la brodeuse, et moi Pallas. Mais avant d'assister à leur joute, arrive Pallas déguisée en vieille femme. Le grand âge ne nous porte pas que des maux à fuir. L'expérience nous vient avec les années. Ne méprise pas mon conseil. Cherche-toi la plus belle réputation de faiseuse de laine chez les mortels. Cède à la déesse pour tes paroles prétentieuses. À voix suppliante, demande le pardon. Ce pardon qu'elle donne à qui le lui demande.
Arachné la regarde de travers, abandonne les fils commencés. Retient à peine sa main, son visage montre sa colère et elle répond à Pallas, méconnaissable. « Pauvre folle, au bout de ta longue vieillesse, avoir trop longtemps vécu, quelle misère! Que t'écoute ta belle-fille si tu en as, ou si tu en as ta fille, moi j'ai assez de mes conseils à moi. »
Ne crois pas m'être utile avec ton avis, mon opinion reste la même. Et pourquoi ne vient-elle pas elle-même? Pourquoi évite-t-elle le combat? Alors la déesse retire sa forme de vieille et se montre Pallas.
Elle est venue.
Les nymphes adorent sa divinité. La seule sans terreur, c'est la fille. Arachné reste là. Dans le désir d'une palme stupide, elle court à son malheur. Athéna, la fille de Jupiter, ne recule plus, ne prévient plus, ne retarde plus le combat. Vite, les deux s'installent d'un côté et d'autre, tendent deux toiles sur des fins métiers à tisser. Toutes les deux vont vite, leurs bras habiles bougent et sur le métier défilent les vieilles histoires. Pallas représente Jupiter en majesté et autour les 12 dieux du ciel. Chaque visage désigne chaque dieu. Jupiter, c'est une image de roi. Elle fait le dieu de la mer, debout qui frappe de son long trident les rochers escarpés. Quant à elle, elle se donne le bouclier, la lance de pointe aiguë, le casque pour sa tête. Elle figure que la terre, frappée de la pointe de sa lance, fait naître un olivier avec des fruits pâles. Et les dieux admirent la victoire finale. Arachné, de son côté, dessine Europe, trompée par l'image d'un taureau. Tu dirais un vrai taureau, de vrais flots. On voit Europe qui regarde les terres qu'elle quitte. On la voit crier vers ses compagnes et craindre le toucher de l'eau bondissante et relever ses pieds timides. À chacun, elle rend son apparence. Au lieu, elle rend leur apparence. Pallas ne peut rien. La jalousie ne peut rien contre l'œuvre. La déesse se plaint de ce succès. Déchire l'œuvre. Elle tient la navette et avec, 3 fois, 4 fois, frappe le front d'Arachné. La malheureuse ne supporte pas. Désespérée, d'un lacet, elle se noue la gorge. Elle est pendue. Pallas a pitié et la soulage.
Que tu vives, mais vive pendue, pauvre fille. Et cette même loi, cette peine, n'espère pas pour l'avenir. Je l'édicte pour toute ta famille et pour tous tes neveux lointains.
Elle s'éloigne et l'arrose des sucs d'une herbe d'Hécate. Aussitôt, les cheveux touchés du triste poison tombent. Et avec eux, le nez et les oreilles. La tête devient minuscule. Elle est toute petite de corps. À son flanc, des doigts maigres s'accrochent comme des jambes. Tout le reste est ventre. Il lui reste pourtant de quoi tisser. L'araignée travaille comme autrefois sa toile.
Si les métamorphoses traduisent la colère des dieux, elles naissent parfois d'un éclair de bonté. Découvrons l'histoire de l'illustre Pygmalion et de la belle Galatée, née sous ses doigts. Déçu par les femmes, Pygmalion voue toute son énergie à son art. Bientôt, il sculpte une femme parfaite dont il tombe amoureux. Taillée dans le marbre, la créature est nommée Galatée, qui signifie « à la peau blanche comme du lait ». Touchée par ses sentiments, Vénus exauce le vœu de l'artiste et donne vie à son œuvre.
Pygmalion les a vus passer leur vie dans le crime. Offensé par les défauts que la nature a donnés à l'esprit des femmes, il vit sans épouse, célibataire. Il évite de partager son lit. Avec un art étonnant, avec bonheur, il sculpte l'ivoire de neige. Il lui donne une beauté que nulle femme n'a. Il prend de l'amour pour son œuvre. Le visage est d'une vraie jeune fille. Tu croirais qu'elle vit, qu'elle veut bouger. Le respect l'en empêche. Pygmalion est émerveillé. Il puise dans son cœur des feux pour le corps imiter. Souvent, il approche ses mains de l'œuvre. Il touche. Est-ce un corps? Est-ce de l'ivoire? Il ne dit pas que c'est de l'ivoire. Il donne des baisers. Il pense qu'ils lui sont rendus. Il parle, serre, croit qu'il touche un corps, y appuie les doigts, craint qu'il touche un corps, y appuie les doigts, craint qu'elle ait des bleus sur les membres qu'il presse. Une fois fait des caresses, une fois donne des cadeaux que les filles adorent, des coquillages et des petits cailloux polis, de minuscules oiseaux, des fleurs de mille couleurs, des lys, des balles peintes et les larmes tombées de l'arbre des Héliades. Il orne son corps de vêtements, donne des bagues à ses doigts, donne de longs colliers à son cou, de légères perles à son oreille, des rubans à sa poitrine. Tout lui va. Il l'installe sur des couvertures teintes du coquillage Sidon, l'appelle « compagne d'oreiller », place son cou incliné sur les doux coussins de plumes, comme si elle pouvait sentir. Le jour de fête de Vénus, très célébré à Chypre, arrive. Pygmalion dépose son offrande, s'arrête devant l'autel timide.
« Si vous pouvez, Dieu, tout donner, je veux que mon épouse soit, il n'ose pas dire la fille d'ivoire, pareille à la fille d'ivoire. »
Vénus d'or, présente à ses propres fêtes, comprend ce que signifie ce vœu. Présageant l'amitié de la déesse, la flamme s'allume trois fois, envoie sa pointe dans les airs. Pygmalion rentre chez lui, cherche le simulacre de la jeune fille, s'allonge sur l'oreiller, lui donne des baisers. On la croirait tiède. Il approche sa bouche, tâte de ses mains la poitrine. L'ivoire tâté mollit, abandonne sa dureté, s'enfonce sous les doigts, cède comme au soleil la cire mollie, malaxée sous l'ongle se plie. L'amant stupéfié craint une fausse joie. Encore il prend sa main l'objet voulu, encore cet accord. Sous le pouce, les veines tâtées palpitent. Le héros de Paphos, cité de l'île de Chypre, prononce de riches paroles par lesquelles il remercie Vénus. De sa bouche, il presse une vraie bouche. La fille sent les baisers donnés. Elle rougit. À la lumière, lève son œil de lumière, timide. En même temps, voit le ciel et l'amant. Aux noces qu'elle a faites, la déesse est présente. Lorsque 9 fois les cornes de la lune se sont assemblées en cercle plein, est née Paphos, fille de qui la ville a pris le nom.
Mais l'amour, non content de transformer les corps, sublime les âmes. On se souvient des aventures du cyclope blessé par Ulysse dans l'Odyssée d'Homère. Loin du monstre rustique, c'est en amoureux transi que nous le dépeint Ovide dans ses métamorphoses. Fils de Neptune, Polyphème, qui signifie « abondant en paroles », se révèle très inspiré lorsqu'il s'agit de déclarer sa flamme à la belle Galatée. La nymphe marine, si elle en aime un autre, ne perd pas une miette des mots de ce fantastique prétendant. Écoutons-le. Tu es plus blanche que la feuille de neige, Galatée, du Troène. Tu es plus fleurie que les prés, plus fine que l'aulne long, plus légère que les coquillages polis et repolis par la mer. Et si tu ne fuyais pas, plus belle qu'un jardin arrosé. Si tu me connaissais bien, tu ne voudrais pas me fuir. Tu regretterais de me faire attendre, tu ferais tout pour me garder. J'ai à moi un morceau de montagne et j'ai... creusés dans la roche vive des grottes où on ne sent pas le soleil en été et où on ne sent pas l'hiver. Il y a des fruits qui pèsent sur les branches. Il y a, pareil à de l'or, sur les longs rameaux des grappes. Il y a des pourpres. Toutes, elles sont pour toi. De tes mains, tu cueilleras, nées sous l'ombre des bois, les fraises douces, les cornouilles d'automne et les prunes, les bleus aux jus noirs, mais aussi les meilleurs qui imitent la cire nouvelle, et les châtaignes, si je suis ton mari, elles ne vont pas te manquer. Délices faciles, cadeaux communs, ce n'est pas pour toi, mais des daims, des lièvres, des chèvres, un couple de colombes, un nid tombé de la cime d'un arbre. J'ai trouvé ces jumeaux, ils pourront jouer avec toi. Ils sont si semblables, à peine tu pourras les reconnaître. Ce sont les bébés de l'ours velu qui vit en haut de la montagne. Je les ai trouvés et j'ai dit, ils seront pour ma maîtresse. Maintenant, lève ta tête magnifique au-dessus de l'eau bleue. Maintenant, Galatée, viens. Ne refuse pas mes cadeaux. Oui, je me connais. Dans le reflet de l'eau limpide, je me suis vue, il n'y a pas longtemps, et elle m'a plu, la forme que j'ai vue. Vois si je suis grand. Il n'y a pas plus grand que ce corps. même par Jupiter dans le ciel, puisque vous aimez raconter qu'y règne un certain Jupiter, toute cette chevelure par-dessus mon visage rude qui ombrage mes épaules comme une forêt, et mon corps, tout dense de poils drus dressés, ne crois pas que c'est laid. Un arbre sans feuillage est laid. Laid un cheval si une crinière ne couvre pas son cou alezan. La plume couvre l'oiseau. La laine est bonne pour la brebis. La barbe va bien aux hommes et les poils drus sur le corps. J'ai un seul œil au milieu sur le front, mais c'est comme un immense bouclier. Quoi ? Tout ça, le grand soleil ne le voit pas du haut du ciel ? Le soleil n'a qu'un œil. Et puis, mon père règne dans tes flots. Je te le donne pour beau-père. Prends pitié de moi. Écoute les prières d'un suppliant. Devant toi seul, je me mets à genoux. Je méprise Jupiter et le ciel et la foudre qui renverse. Toi, fille de Néré, je te vénère.
Et toi, t'es qui ?
Je suis Bacchus, fils de Jupiter.
T'es aussi un fils de Jupiter ?
Oui, bah tu sais, on est nombreux. Arcas, Pollux, Hercule, Persée. Je te parle que de ceux qu'il a eus avec des mortels.
Tu fais pas partie des dieux ?
Oh si, si. Je suis le petit dernier. Je suis le plus redoutable et le plus doux des dieux. Ma mère a eu une histoire avec Jupiter. Elle n'a pas eu ta chance, elle. Elle est morte, foudroyée. Ne crains rien, il va venir te chercher. Je sais même qu'il veut t'offrir une île grecque, dont tu seras la reine.
J'ai pas du tout envie d'être la reine d'une île grecque.
Tu as tort. C'est notre mère à tous, la Grèce.
Jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu devinez que des dieux se cachaient sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisés, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi. Mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Célébrons pour finir le changement perpétuel. Arrivé au 15e livre de son chant, Ovide cède la parole au sage Pythagore, instruit des mystères de la nature et du cosmos. Dans le long discours qu'il lui prête et derrière lequel on devine le poète, il est question de notre peur absurde de la mort et de notre place nécessairement mouvante au sein d'un univers instable. Écoutons le philosophe. Un dieu remue ma bouche. Je suivrai ma bouche qui remue selon le dieu qui est en moi. Je livrerai les oracles d'une grande pensée. Les choses que nos parents n'ont pas cherché à comprendre, celles qui sont depuis longtemps cachées, je les chanterai. Je veux aller par les astres hauts, je veux laisser les terres, les lieux immobiles, que le nuage me porte. Je veux m'installer sur les épaules d'Atlas le puissant, et les hommes en errance ici et là, en manque de raison, je veux les regarder de loin qui tremblent de la peur de la mort. Je veux les encourager, dérouler pour eux la série du destin. Ô race saisie par la terreur de la mort glacée, tu crains le Styx, les ténèbres, ces noms vains, matière à poème, danger d'un monde faux. Le bûcher par la flamme ou le temps par la putréfaction emporte les corps. Pense bien qu'ils ne savent pas souffrir. Pas de mort pour l'âme. Toujours son premier lieu quitté, elle vit dans de nouvelles demeures, y entre, y habite. Tout change, rien ne périt. Il erre d'ici à là et de là à ici. Il occupe les corps que tu veux, le souffle. Des bêtes, il passe aux hommes, et de nous aux bêtes. En aucun temps, il ne meurt. Comme la nature change de visage, les corps des hommes se transforment. Et ce que nous avons été, ce que nous sommes, nous ne le serons pas demain. Un jour, nous étions juste germes, espoir premier des hommes, nous habitions le ventre d'une mère. La nature nous prête ses mains qui savent faire. Elle ne veut pas que s'étranglent nos corps enfouis dans les entrailles tendues d'une mère. Elle nous extrait de cette maison, nous envoie dans les airs. On appelle naître, commencer à être autre chose que ce qu'on était, et mourir, le contraire. Rien ne périt dans le grand monde, crois-moi. Tout varie et change de visage. Nous voici au terme de notre parcours, découvrons l'épilogue du poète. C'est en exil, chassé de Rome par l'empereur Auguste, qu'Ovide achève ses métamorphoses. Mais il tient sa revanche. Conscient de laisser derrière lui une œuvre ample et digne de lui survivre.
J'ai fini mon travail. Ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer, ni le temps vorace ne pourront le détruire. Quand il veut le jour qui n'a de droit que sur mon corps, qu'il finisse mon temps incertain de vie, immortel, en ma meilleure partie, par-dessus les astres hauts, on me portera. Mon nom sera ineffaçable. Partout où s'étend sur les terres dominées la puissance romaine, la bouche du peuple me lira. J'irai, connu, à travers les siècles. Et s'il y a quelque chose de vrai dans les oracles d'un poète, je vivrai.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Olivier Dupré à la technique. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser. Les Métamorphoses d'Ovide vous ont été proposées dans la traduction de Marie Connet, parue aux éditions de L'Ogre. Un grand merci à vous, chère Irène Jacob, pour cette lecture partagée.
Merci Guillaume.
Vous êtes actuellement en tournée dans Retour à Reims de Didier Héribon, mis en scène par Thomas Ostermayer. Vous venez de publier votre premier roman, Big Bang, aux éditions Albin Michel. Bonne soirée à l'écoute de France Inter et à la semaine prochaine.